Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky.
Les marchandes de sable, le roi Arthur de Michael Morpurgo. Chapitre 1, la cloche. Le jeune garçon sortit de chez lui dès l'aube, avec assez de provisions dans son sac à dos pour tenir jusqu'au soir. C'était une chose qu'il s'était toujours promis de faire le jour où il en aurait la possibilité et où les conditions seraient favorables. Il n'avait fait part de ce projet à personne, parce qu'il savait que sa mère se serait inquiétée, que sa petite sœur aurait vendu la mèche et que son père aurait essayé de l'en dissuader. Pour eux, il partait pêcher la crevette autour de l'île de Samson. Il se lèverait tôt pour profiter de la grande marée d'équinoxe du printemps dès qu'elle commencerait à baisser, ce qui lui permettrait de passer à pied sec de Breyer à Tresco, puis de Tresco à Samson. Ça, c'était ce qu'il leur avait dit. Tout le monde en faisait autant, mais ce que personne n'avait jamais fait, à sa connaissance tout au moins, c'était de gagner à pied les îles du Levant et d'en revenir. Tout le monde prétendait que c'était irréalisable, entre deux marées. Son père était absolument formel. C'était en partie pour cela que le garçon était bien décidé à le faire. Il avait tout prévu. Il connaissait les eaux qui baignent les îles Scilly comme sa poche, ayant vécu là chacune des 12 années de sa courte vie. Du pont du bateau de pêche de son père, il avait observé chaque récif, chaque banc de sable. Il connaissait les marées, les courants et les nuages. L'équinoxe de printemps provoquerait la plus grande marée que l'on ait vue depuis des années. Le temps était stable et idéal, ciel rouge la veille au soir, et les vents étaient bien orientés. À condition de quitter les îles du Levant à 12h30, il aurait le temps de regagner Breyer et de rentrer chez lui avant que la marée ne remonte et ne lui barre le passage. Il savait que, à certains endroits, il serait forcé de se mettre à l'eau jusqu'aux épaules. Et au pire des cas, il pourrait toujours nager. Il était le meilleur nageur de l'école. C'était faisable. Et il le ferait. Sur la grève de Green Bay, il regarda le détroit de Tresco en sentant la boue froide s'immiscer entre ses orteils. Il consulta sa montre. Presque 6 heures. Un couple d'huîtriers qui s'affairait sur les hauts fonds fut dérangé par une bande de mouettes criardes qui se disputaient un crabe. Ils s'envolèrent en glapissant d'indignation. La mer baissait rapidement dans le détroit de Tresco. Il n'y avait pas un souffle de vent, pas un nuage dans le ciel de l'aube. Le garçon remonta son sac à dos et se mit à courir vers Tresco. Comme il l'avait prévu, le jusant s'écoulait encore dans le détroit. Il y barbota, mais la force du courant le contraignit bientôt à marcher. Il retira son sac à dos, le posa sur sa tête et s'enfonça plus profondément. La froideur de l'eau lui coupa le souffle. Il se dit qu'il avait dû partir tôt, trop tôt, qu'il vaudrait peut-être mieux faire demi-tour et attendre que la marée baisse un peu plus. Mais au bout de quelques pas, le sol commença à remonter et il se retrouva bientôt à sec. Il escalada les dunes et se remit à courir. Lorsqu'il passa devant l'église de Tresco, l'horloge marquait 7h moins le quart. Il était dans les temps. Quand il arriva au port d'Old Grimsby, les fonds étaient en vue, à croire que Moïse l'y avait précédé. L'eau s'écoulait encore par endroits, mais le chemin à suivre était bien visible. Tin put traverser jusqu'à Saint-Martin's et longer le rivage jusqu'à la baie de Hyertown. De là, on apercevait les îles du Levant toujours entourées d'eau, et le banc de sable de Ganilly formait déjà un filo doré sous le soleil matinal. Ce banc de sable serait sa seule voie d'accès, à l'aller comme au retour. Dans moins de 2 heures, d'après ses calculs, il formerait une courte ligne jusqu'aux 2 îles du Levant. Il faudrait faire vite. Il avala son petit déjeuner sans s'arrêter, 2 petits bains à la saucisse et un sandwich à la confiture qui l'engloutit trop vite. ce qui l'obligea à faire halte et à boire un peu d'eau de sa gourde pour les faire passer. Puis il repartit vers Tine en mordant dans sa première pomme. La marée était toujours descendante. Il savait que c'était le trajet le plus facile. C'est au retour jusqu'à Breher qu'il faudrait battre la marée de vitesse. L'horaire devait être parfaitement respecté. Aussi, plus tôt il atteindrait les îles du Levant, mieux cela vaudrait. Une fois là, il disposerait tout juste d'un quart d'heure pour déjeuner et se reposer. C'est avec cette seule idée en tête qu'il atteignit Saint-Martin's et courut le long de la plage en s'efforçant de rester sur le sable mouillé, moins fatigant pour ses jambes lasses que le sable mou proche des dunes. Maintenant, le soleil était haut et lui chauffait le crâne. Le sac à dos lui frottant les épaules, il passa ses pouces sous les bretelles pour les soulager. Quand les rochers succédèrent à la plage, il bifurqua vers l'intérieur des terres et suivit le sentier qui serpentait entre les fougères en direction de Hightown. Au moment où il passait devant le portail de l'école, il aperçut Maurice Jenkins qui venait à sa rencontre. C'était la dernière personne au monde que le garçon souhaitait rencontrer. Maurice voudrait bavarder. Il voulait toujours bavarder. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui cria Maurice. « Je t'expliquerai plus tard !» répondit le garçon tout essoufflé en accélérant l'allure. « Tu t'entraînes pour le marathon ou quoi ?» Quelque chose comme ça. Une fois hors de vue, il poussa un soupir de soulagement et ralentit. Ses jambes lourdes l'invitaient à s'asseoir, à se reposer, mais il n'osait pas. Pas encore. Il songea à Maurice. Il avait résisté à la tentation de lui dire où il allait, ce qu'il faisait. L'autre se serait moqué de lui. En temps voulu, lorsqu'il aurait gagné son pari, il en parlerait à qui il voudrait. Il le raconterait à tout le monde. Certains ne le croiraient pas, évidemment, dont Maurice. Mais tant pis. Lui saurait à quoi s'en tenir. Et c'était la seule chose qui comptait vraiment. Il croqua une autre pomme et pressa le pas vers les îles du Levant. À midi, le garçon trônait triomphalement sur le plus haut rocher de Green Ganili, la plus grande des îles du Levant. Maintenant, on apercevait par-ci par-là quelques silhouettes isolées, pêchant la crevette autour de Saint-Martin's. Mais il était rigoureusement seul aux îles du Levant, en dehors d'un phoque solitaire au large et de quelques sternes glapissantes qui piquaient vers lui pour essayer de lui faire quitter son rocher. Il resta où il était et déjeuna sans s'occuper d'elle. Elles finirent par se décourager et le laissèrent en paix. Il termina son dernier sandwich et consulta sa montre. Il avait 10 minutes d'avance. Il allait se reposer pendant une minute ou deux avant de se remettre en route. Il avait tout le temps. Il s'étendit sur le rocher, la tête appuyée sur son sac à dos, les yeux clignotants sous le soleil éblouissant. Il les ferma et se demanda à quoi ressemblaient les îles Scilly lorsqu'elles ne formaient qu'une seule grande île, avant qu'elles basculent 1500 ans plus tôt et laissent l'océan les envahir. S'agissait-il d'un tremblement de terre? Ou peut-être une lame de fond? Personne n'en savait rien. C'était un mystère. Il aimait les mystères. Il aimait l'inconnu. Bercé par la chaleur silencieuse et plus fatigué qu'il ne le croyait, il s'assoupit. Lorsqu'il se réveilla, le soleil, le ciel et la mer avaient disparu. Il était enveloppé par un brouillard épais. La corne de brume du phare de Bishop Rock mugissait au loin, comme en écho à la peur qui s'infiltrait dans le cœur du garçon. Il descendit à tâtons parmi les fougères. Sur le rivage, le temps serait plus clair. Il devait être plus clair. Il fallait qu'il soit plus clair. Si le banc de sable était visible, il trouverait son chemin pour rejoindre Saint-Martin's. Tout allait bien, parfaitement bien. Le banc de sable était là, s'étirant dans le brouillard. Il lui suffisait de le suivre pour être en sécurité. À ce moment-là seulement, il songea à regarder sa montre. 1h25. Seulement 5 minutes de retard. Il fallait qu'il se dépêche. Il partit en courant sur le banc de sable, cherchant des yeux, dans toute cette blancheur, une ombre susceptible d'être Saint-Martin's. Ce devait être par là. C'était sûrement par là. Il pataugeait dans des flaques sableuses, et soudain, ces flaques cessèrent brusquement d'être des flaques pour devenir la mer elle-même. Il ne pouvait pas aller plus loin. L'océan se refermait autour de lui. Pétrifié par la peur, il tendit l'oreille. Il entendit le murmure de vaguelettes montant à l'assaut du sable. Tout à coup, une bouffée de vent venue du large le transperça jusqu'aux eaux, mais lui donna le seul espoir qui lui restait. Il était perdu. Grid Ganilly avait disparu. Saint-Martin s'était invisible. Seul le vent pouvait encore le sauver. Si seulement ce vent parvenait à dissiper le brouillard opaque, il pourrait au moins trouver son chemin sur le banc de sable et regagner à la nage Grid Ganilly, où il serait en sécurité. Aussi resta-t-il immobile dans le vent, regardant autour de lui, et attendant en priant pour que le brouillard s'éclaircisse. Dérouté, désorienté et craignant maintenant pour sa vie, il cherche à le point le plus élevé qu'il put trouver sur le banc de sable. Un calme étrange l'envahit, un détachement de lui-même. Il se demanda si c'était le commencement de la fin. Quand il cria, ce fut uniquement pour entendre le son de sa voix et s'assurer qu'il était encore en vie. Mais lorsqu'il eut commencé, il ne s'arrêta plus. Il cria, il hurla jusqu'à en avoir mal à la tête, jusqu'à s'en casser la voix. Ses cris étaient aussitôt étouffés, escamotés. C'était sans espoir. Il se laissa tomber à genoux sur le sable et renonça à lutter. La mer allait l'emporter, le noyer et broyer ses os pour en faire du sable. Une cloche tinta au loin, sur les flots, une cloche de navire. Le garçon doutait encore de l'avoir véritablement entendue lorsqu'elle tinta à nouveau. Assourdie par le brouillard, elle n'avait aucune résonance, mais elle était bien réelle. Ce n'était pas un effet de son imagination. Il bondit sur ses pieds et se lança sur le sable en criant « Par ici, par ici! Au secours! Sauvez-moi !» Il s'arrêta pour écouter la réponse. Il n'y en eut pas, seulement la cloche tintant quelque part au large, lointaine, faible, mais indiscutable. Il pataugea dans les flaques et eut bientôt de l'eau jusqu'à la taille. Maintenant, il ne s'arrêtait plus que pour écouter la cloche, pour s'orienter, pour se convaincre une fois de plus qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. La cloche devint plus proche, plus nette. Le garçon était sorti de la mer et courait sur des galets où ses pieds glissaient, dérapaient. À plusieurs reprises, il trébucha et tomba sur les genoux, mais chaque fois, la cloche le fit relever en lui donnant un nouvel espoir, de nouvelles forces. À présent, il était persuadé qu'elle l'appelait, qu'elle le guidait, qu'elle l'aidait. « Où êtes-vous ? Où êtes-vous » cria-t-il. La cloche lui répondit une fois de plus, et il repartit vers elle en chancelant. Puis il recommença à barboter et ne s'arrêta pas. Il n'avait pas le choix, il devait suivre la cloche. Lorsque l'eau atteignit son menton et qu'il lui fut impossible de marcher, il se mit à nager. Il s'arrêtait toutes les 4 ou 5 brasses pour écouter la cloche, mais à chaque halte, elle semblait plus éloignée. La mer le refoulait. Il lutta contre le courant à grands coups de pied, mais comprit que c'était une bataille perdue. Il appela au secours, et l'eau salée lui emplit la bouche et le suffoqua. Ses forces déclinaient rapidement. Le froid de la mer étreignit ses jambes et provoqua des crampes. Ses bras ne parvenaient plus à soutenir sa tête hors de l'eau. Il cria une dernière fois, et la mer l'engloutit. Ses dernières pensées lucides furent pour sa mère. Il la vit ramasser un sac à dos trempé et le serrer sur son cœur en pleurant, le sac à dos qu'il avait dû oublier sur Great Canini. Au moins, elle saurait qu'il était allé jusque-là. Des algues s'enroulèrent autour de ses bras et l'empêchèrent de remonter à la surface. Il se prit à espérer que le paradis existait. Le paradis était bien chauffé, ce dont le garçon se félicita. Un dernier frisson le débarrassa de son restant de froidure et il regarda autour de lui. Il était couché dans un grand lit et couvert de fourrure dont les poils le chatouillaient les oreilles. Un bon feu ronflait auprès du lit, auprès de lui, et un homme portant une longue cape grise le tisonnait du bout de son bâton en faisant jaillir des gerbes d'étincelles dans la cheminée. De son vivant, le garçon avait souvent essayé de se représenter le ciel. Eh bien, le ciel ne ressemblait en rien à l'image qu'il s'en était faite. Il se trouvait dans ce qui semblait être une vaste salle, éclairée de tous côtés par des torches flamboyantes, au milieu de laquelle se dressait la plus grande table qu'il ait jamais vue, une table parfaitement ronde, entourée d'une centaine de chaises. Au fond de la salle, un escalier taillé dans le roc s'élevait en spirale dans des ténèbres enfumées. Le garçon toussa. « Enfin !» dit l'homme en se redressant et se tournant vers le garçon. « Te voilà quand même réveillé !» Le garçon retrouva sa voix. « Vous êtes le bon Dieu ?» demanda-t-il. L'homme renversa la tête en arrière et éclata de rire. Ses cheveux et sa barbe étaient blancs et très longs, mais ses traits et ses yeux étaient ceux d'un homme encore jeune, trop jeune pour être le bon Dieu, estima le garçon au moment même où il posait la question. « Non, répondit l'inconnu, et il s'assit sur le lit à côté du garçon. « Je ne suis pas le bon Dieu. Je m'appelle Arthur Pendragon et je vis ici, si on peut appeler cela vivre. » Il se pencha en avant et chuchota. « Elles me tiennent enfermé dans cette caverne tout au long de l'année. » L'ours qui hiberne n'a-t-il pas lui-même le droit de sortir à la fin de l'hiver ? Soyez patient, me disent-elles, soyez patient et votre heure viendra. Elles sont 6 grandes dames. Ce sont elles qui m'ont amené ici. Il faut qu'il y ait un tel brouillard que personne ne risque de m'apercevoir pour qu'elles me laissent sortir. Je suis censée me reposer, mais il y a des années que je n'arrive plus à dormir convenablement. Je fais des rêves et mes rêves me disent que mon heure est proche. On aura bientôt un nouveau besoin de moi. Je n'attends plus qu'un messager. Il parlait maintenant on ne peut plus sérieusement. Ce ne serait pas toi par hasard. Le garçon terrifié eut un mouvement de recul. Non, évidemment pas, ce n'est pas possible. Tu n'as pas sonné la cloche, n'est-ce pas ? Le garçon terrifié eut un mouvement de recul. Non, évidemment pas, ce n'est pas possible. Tu n'as pas sonné la cloche, n'est-ce pas ? Elles m'ont dit que quand il sonnerait la cloche. L'homme sourit avec ses yeux, le garçon comprit qu'il n'avait rien à craindre. Il réalisa brusquement qu'il se pouvait qu'il appartenait encore au monde des vivants. Alors je ne suis pas mort ? Se hasarda-t-il à demander. Pas plus que moi, répondit Arthur Pendragon. Mais tu as bien failli disparaître. Devant l'âtre, un tapis s'agita et devint un chien, un deerhound, le grand lévrier d'Écosse. Le chien bâilla, s'étira et s'approcha nonchalamment du lit. Je te présente Bercelet, dit Arthur Pendragon en grattant la tête du chien, mon seul compagnon dans ma longue réclusion. Les dames qui m'ont amené ici ne sont pas causantes. Elles sont bonnes pour moi et je ne manque de rien, mais autant vivre avec des ombres. Il est vrai que maintenant nous t'avons, pour quelque temps tout au moins. C'est Bercelet qui t'a entendu le premier, tu sais. Comme moi, il attend le brouillard avec impatience, afin de nous échapper durant quelques heures de cette espèce de tombeau. Mais six dames t'ont entendu aussi. Surtout ne bougez pas, m'ont-elles recommandé, sinon tu te trahirais. Ne pas bouger, ai-je protesté. C'est pour le coup que je me trahirais, et cela je ne le ferai jamais. Jamais plus. Et j'ai sonné la cloche, mais tu n'es pas venu. J'ai sonné encore et encore, et tu n'es quand même pas venu. Alors je suis partie te chercher. J'ai l'impression que je t'ai découvert avant qu'il ne soit trop tard. Vous m'avez repêché ? Arthur Pendragon hocha la tête en souriant. Elles sont très mécontentes de moi, mes gardiennes. Mais au moins, j'ai quelqu'un à qui parler, quelqu'un du monde réel. Oh, je parle à Bercelet, évidemment, et à moi-même. Je me parle beaucoup à moi-même. Tu sais ce que je fais ? Je me raconte inlassablement les vieilles histoires pour être sûr de ne pas les oublier. Les histoires, c'est comme les personnes. Elles disparaissent quand on les oublie. Et si elles disparaissent, alors je disparaîtrai avec elles. Je veux qu'on sache ce qui est arrivé, ce qui s'est réellement passé. Je ne veux pas qu'on nous oublie. Le garçon se redressa brusquement. Il regarda sa montre, mais le cadran était embué. Il la porta à son oreille, mais le mécanisme était arrêté. Depuis combien de temps suis-je ici ?
Tu as dormi une demi-journée et toute une nuit.
Alors il faut que je rentre, dit le garçon. Ils vont me croire mort.
Non, sûrement pas, dit l'inconnu. Nous te ramènerons chez toi d'ici peu, dès que tes vêtements seront secs. Les dames voulaient te renvoyer immédiatement, tout froid et trempé, mais je me suis opposé. Nous le renverrons chaud et sec, leur ai-je dit. Et c'est ce que je ferai, parole de roi. Et ce roi-là ne manque pas à sa parole, plus jamais.
De roi ? Vous êtes un roi ?
Je te l'ai dit, je suis Arthur Pendragon, suzerain de Bretagne, qui a passé ses derniers siècles en hibernation ici, à Lyonnais.
Le garçon ne put s'empêcher de sourire. Le vieil homme hocha la tête avec compréhension et continua.
Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ?
Au fond, pourquoi me croirais-tu ?
Mais tu peux croire que je t'ai sorti de la mer, croire que je t'ai porté ici, croire que ce sont tes vêtements qui sèchent près du feu, croire que tu es couché dans mon lit. Tiens, touche ma main. De la terre et de la chair et du sang, comme la tienne.
La main qui caressa la joue du garçon était tiède et rugueuse, aussi rugueuse que celle de son pêcheur de père.
Tu vois ?
Mais le roi Arthur, ce n'est qu'une histoire, une légende.
Une légende, dis-tu ? Une légende ? Tu entends cela, Bercelet ? Ton maître est une légende.
Il se tourna à nouveau vers le garçon.
Ainsi, tu as entendu parler de moi ?
Oui, acquiesça le garçon, un peu. Cette épée dans le lac.
Excalibur, c'est tout ce que tu connais ? Eh bien, pendant que nous attendons que tes vêtements sèchent, tu vas entendre le reste. C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère, d'espoir, de triomphe et de désastre. C'est mon histoire, mais pas uniquement la mienne. Sur les chaises vides que tu vois autour de la table ronde s'asseyait autrefois une assemblée de chevaliers, les hommes les meilleurs et les plus courageux que ce monde ait jamais connus. Et ils étaient aussi mes amis. Je te parlerai d'eux, je te parlerai de moi. Maintenant, allonge-toi et repose-toi. Il tapota le lit et Bercelet sauta d'un bond, se coucha à côté du garçon, poussa un gros soupir et lui lécha la main. Je sais, Bercelet, tu as déjà entendu cette histoire bien des fois, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, tu y étais, la plupart du temps en tout cas. Le chien ferma les yeux et poussa un nouveau soupir. Seulement, ce jeune homme ne la connaît pas, alors il va falloir en prendre ton parti. Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant à peine plus vieux que tu ne l'es aujourd'hui. Arthur Pendragon se rassit à côté du feu, contempla un instant les flammes et commença son récit.